l'actualité des idées aujourd'hui, le virtuel peut-il être une porte d'entrée sur le réel? On en parle avec notre invitée, la numéricienne Aurélie Jean, chercheuse et entrepreneur. Après une formation mi-française, ENS Paris-Saclay, mi-américaine, passage au MIT de Boston, spécialiste de sciences numériques appliquées et d'intelligence artificielle, elle publie aujourd'hui De l'autre côté de la machine, c'est aux éditions de l'Observatoire, où elle donne des clés de compréhension d'un monde qui ne doit pas rester incompris, selon elle, et notamment sur cette question des algorithmes. Bonjour à vous, Aurélie Jean.
Bonjour Olivia.
Merci d'être avec nous. C'est votre voyage que vous racontez ici, un voyage éveillé au cœur des équations mathématiques et des lignes de code. Il commence à Harvard, où vous faites la connaissance de Mark One, hein, l'un des tout premiers ordinateurs. Pourquoi est-ce que vous êtes allé le rencontrer ?
J'étais rencontrée parce que je savais qu'il était après le désassemblage de cet ordinateur qui a été donc développé durant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Je savais qu'il avait été désassemblé, mais que les pièces principales étaient à Harvard. Et je voulais aller le voir, en fait, pour justement découvrir cet élément historique important dans l'histoire, en fait, de l'intelligence artificielle et des sciences numériques. Et quelle n'a pas été ma déception.
Parce que?
Parce qu'en fait, je l'ai trouvé assez moche entre vous et moi. C'est-à-dire qu'il est très gris, aucune
très
lumière,
grand.
Très grand, énorme, ouais. Énorme, sans véritablement d'ergonomie intéressante ou d'esthétique, hein, voilà. Mais c'était quand même intéressant de le voir.
Oui, surtout qu'à chaque époque, sa fascination pour ces nouvelles machines. Aujourd'hui, la machine qui nous fascine ou qui nous inquiète, elle ressemble à quoi?
Elle ressemble à quelque chose de complètement intangible. Contrairement à Mark One, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, on parle en particulier d'algorithmes, c'est-à-dire que c'est des choses intangibles, c'est vraiment la partie soft, molle de la machine, donc ce n'est pas forcément la machine elle-même.
Qui n'est que le support, du
voilà,
coup.
Voilà, exactement, le support matériel.
Alors, votre voyage consiste à aller voir derrière le support, de l'autre côté du miroir. Hein. Mon voyage m'a amené dans une salle de calculateur, dans un bloc chirurgical, sur un lieu des attentats, dans une classe, dans une salle des marchés, dans une agence de presse et même dans le désert. Je l'ai voulu sans frontières, ce voyage, et surtout sans a priori, écrivez-vous. Que lui trouvez-vous de merveilleux à ce pays, à cette traversée d'un miroir que vous avez réalisé et que beaucoup d'entre nous regardent avec angoisse?
Moi, j'ai trouvé ça fascinant et je trouve toujours ça fascinant parce que je continue à le faire. Passer de l'autre côté de la machine, de ce miroir, c'est pour moi un moyen de comprendre le réel. C'est-à-dire que, comme je l'écris dans le livre, il y a plein de phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre dans le réel. Et en passant par le virtuel, en passant par ce monde algorithmisé, en faisant des modèles mathématiques, des algorithmes pour simuler la réalité, on peut mieux la comprendre. Donc pour moi, c'est un moyen de comprendre la réalité.
Exemple.
Par exemple, lorsque j'ai travaillé, je l'explique dans le livre, sur les traumatismes crâniens, je devais en fait littéralement impacter une tête humaine et regarder les champs de pression dans le cerveau. Bien évidemment, dans le monde réel, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas impacter des têtes humaines vivantes.
Impacter, ça veut dire cogner.
Un gros choc, voilà. Un choc, par exemple. Et donc, j'ai dû le faire dans le monde virtuel. Donc, j'ai dû modéliser la géométrie du cerveau humain et modéliser un choc à la tête pour pouvoir identifier les champs de pression à l'intérieur du cerveau et donc les pics de pression et leur localisation.
Et qu'est-ce que vous avez découvert de notre cerveau à travers ça?
Alors, on a découvert beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est très intéressant parce que le premier modèle que j'ai fait, c'était sur mon propre cerveau parce qu'il me fallait des datas et que j'avais pas de data sous moi. Donc, du coup, j'ai fait un IRM de ma tête pour faire un modèle de la géométrie de mon cerveau. Donc, j'ai impacté mon cerveau en premier. Et ce qui est très intéressant, c'est que grâce à ces simulations, j'ai pu décrire une loi mathématique qui décrit le risque d'un humain d'avoir un traumatisme crânien en fonction de l'énergie du choc à la tête. Voilà.
J'aime bien quand vous dites que vous n'aviez pas de data sur vous, vous n'aviez pas de données sur vous. En fait,
voilà, en fait, disons que sur moi,
c'est-à-dire... Personne n'en a.
Pardon, je n'avais pas, excusez-moi, j'aurais dû préciser. En fait, je n'avais pas de données géométriques de cerveau humain sous la main. Ah. Il fallait attendre un ou deux mois donc, pour la collecte. Donc, il fallait quand même que je m'entraîne et puis que je vois un peu comment le modèle tourne. Donc, je l'ai fait sur moi.
Voilà. De l'autre côté de la machine, c'est le titre de ce voyage d'une scientifique au pays des algorithmes, comme vous l'avez sous-titré avec les éditions de l'Observatoire. Il y a un clin d'œil, bien sûr, à Alice au pays des merveilles. Pourquoi préférez-vous Lewis Carroll à George Orwell ou à Isaac Asimov?
Alors, j'aime beaucoup Lewis Carroll parce que j'ai grandi avec les livres de Lewis Carroll et Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir. Puisqu'en fait, comme je le dis aussi dans le livre, ce que j'ai adoré dans Alice, c'est sa curiosité. C'est-à-dire que je me reconnaissais dans sa curiosité, parce que d'ailleurs Lewis Carroll l'a décrit comme extravagamment curieuse. Et c'est vrai que je le dis aussi, c'est la curiosité, souvent on la présente comme un vilain défaut. Et en fait, à travers ce livre, je montrais en fait que c'est l'une des plus belles qualités, qui permet en fait de découvrir plein de choses méconnues de sa propre vie, des choses, des êtres, voilà. Donc c'est la curiosité d'Alice qui m'a émerveillée, on va dire.
Et sur Asimov et Orwell, vous dites au contraire, ce sont deux écrivains visionnaires,
oui.
Mais dans ces visions qu'ils nous retransmettent, ils ont eu aussi, où ils sont devenus coupables d'avoir rendu nos imaginaires très sceptiques et voire négatifs par rapport à cette réalité virtuelle, l'intelligence artificielle notamment.
Alors ce ne sont pas eux qui sont coupables, c'est nous qui devons faire attention à distinguer le réel du virtuel, c'est ce que j'explique également. C'est-à-dire que oui, Asimov, Orwell, Kurt Vonnegut, tous ces grands auteurs en fait, sont visionnaires parce qu'en fait ils arrivent à se projeter dans le futur avec bien évidemment plein d'éléments imaginaires et puis des choses qu'ils anticipent eux-mêmes. Mais moi ce que j'aimais beaucoup dans ces livres, quand j'étais plus jeune et toujours maintenant, c'est pas tant le côté science-fiction à proprement parler, c'est davantage en fait l'impact sociétal. C'est-à-dire la perte de liberté, la mort écologique de la planète, la question du libre arbitre, toutes ces choses-là en fait qui sont toujours quelque part remises en question. En tout cas, on a peur de les perdre avec le temps, avec l'évolution technologique, et ça a toujours existé, et plus particulièrement aujourd'hui, puisque entre autres, je pense à cause de la pervasivité en fait de la technologie, mais aussi de l'intangibilité de ces technologies. Donc, on a du mal à comprendre ce qu'on ne voit pas.
Est-ce que c'est vraiment un autre monde, d'ailleurs, ce que vous avez découvert en traversant le miroir ?
Oui, c'est un autre monde, puisqu'en fait, c'est un monde qui est composé d'équations mathématiques, de séquences d'opérations, de lignes de code, de logique, de grands principes physiques. C'est vrai que je le dis pas mal aussi, c'est-à-dire que moi, tous les modèles et tous les algorithmes que j'ai écrits explicites sont basés sur des équations mathématiques qui décrivent des phénomènes physiques, médicaux, mécaniques. Et donc oui, c'est un monde quand même très très différent. Même si on essaie justement de lui donner un certain réalisme pour qu'il puisse représenter la réalité, la simuler avec la plus grande objectivité, en tout cas le plus grand réalisme.
Qu'est-ce qui est virtuel et qu'est-ce qui est réel ? Retour aux origines sémantiques de ces deux mots avec le philosophe Marcello Vitali Rosati.
Le mot dérive d'un mot latin qui est virtualis, donc qui a une traduction d'un mot grec, dunaton. Le mot grec, dunaton, signifie simplement possible. Et ce qui est vraiment intéressant, à mon avis, c'est que le mot virtualis, donc le mot duquel dérive notre virtuel, naît comme choix des traductions en latin d'une signification particulière du dunaton, justement pour souligner un aspect particulièrement réel de ces dunatons. Oui. Les auteurs latins, entre autres, je prends l'exemple de Saint Thomas, utilisent le mot virtualis pour traduire dunaton quand ce n'est pas vraiment le possible, mais c'est une force productive. Saint Thomas l'utilise pour dire la création est virtuellement d'un dieu. Et alors, si on connaît un minimum de théologie de l'époque, on se rend compte que Dieu est bien réel, et que donc la création virtuelle est plus réelle que la création actuelle.
Ah, est-ce que le virtuel, pour vous aussi, peut être plus réel que le réel, Aurélie Jean ?
Pas forcément, parce que c'est deux choses très différentes. En fait, on ne peut pas comparer le virtuel et le réel. C'est des choses qu'on peut comparer en termes de est-ce que l'un représente bien l'autre, à savoir est-ce que le virtuel représente correctement le réel, mais c'est quand même des choses très différentes. Par contre, ce que disait le philosophe, j'ai beaucoup aimé, il parle de force productive lorsqu'il parle du virtuel, et pour moi c'est exactement ça, c'est-à-dire que le monde virtuel algorithmisé, mathématisé, pour reprendre l'expression de Galilée, parce que son rêve était de mathématiser le monde pour mieux le comprendre, c'est une force productive parce qu'elle permet en fait de produire des raisonnements, de produire des explications, de produire en fait pas mal de mécanismes qu'on va réussir à comprendre, qu'on ne comprend pas dans la réalité, et qui vont nous permettre en fait de faire des grands bonds dans notre compréhension du monde.
Vous revenez-vous sur la définition d'algorithme pour tenter de contrer un peu notre algorithmophobie, ou je ne sais pas comment on l'appelle, c'est d'essayer de comprendre déjà de quoi on parle. Quelle est cette définition et pourquoi, pour comprendre ce qu'est aujourd'hui un algorithme, vous repassez vous aussi à la fois par le latin et le grec, et notamment par Euclide.
Oui, donc un algorithme à proprement parler, en fait, c'est une séquence d'opérations à exécuter selon une certaine logique. On parle parfois de hiérarchisation de cette séquence d'opérations pour pouvoir répondre à une question ou résoudre un problème. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithme, on sous-entend algorithme numérique, c'est-à-dire c'est un algorithme qui est destiné à être implémenté dans un code de calcul pour tourner sur un ordinateur, pour faire ce qu'on appelle une simulation numérique. Toujours pareil, pour répondre à une question, résoudre un problème. Mais en fait, comme vous l'avez dit, Olivia, l'algorithme est bien plus ancien, puisqu'en fait, le mot vient du latin algorithmi, donc qui est le nom latinisé du mathématicien perse Al-Khwarizmi. Mais en fait, la notion même d'algorithme est bien plus ancienne, puisqu'en fait, je l'explique dans le livre, elle date d'Euclide, 3 siècles avant notre ère, où en fait, Euclide avait, avec entre autres son livre Les éléments, donc c'était de la géométrie, pas de les mathématiques, avec son livre Les éléments, avait décrit des éléments pour résoudre des problèmes, pour démontrer des théorèmes, comme le théorème de Thalès, qui n'avait pas été un théorème avant, puisque c'était une conjecture, ça n'avait pas été démontré. Donc en fait, voilà, c'est l'algorithmie, c'est littéralement un processus logique de résolution d'un problème.
Processus mathématique. Alors là, on a l'algorithme, et vous vous attardez beaucoup sur les biais algorithmiques. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, en fait, je parle des biais algorithmiques que j'ai découverts assez tard, après ma thèse, dans le cadre de ma recherche dans la médecine à l'Université d'État de Pennsylvanie en 2009. Donc en fait, on sait tous que c'est un biais cognitif. C'est-à-dire que nous avons des manières parfois déformées ou propres à nous-mêmes de voir les choses, les êtres, les individus, tout simplement en fonction de nos origines sociales, de notre langue, de notre origine culturelle, de notre histoire, plein de choses. Et donc, lorsqu'on construit quelque chose, que ce soit même un texte ou un objet ou une idée, on va transmettre nos biais cognitifs à cette chose, à cet objet qu'on va produire. Et donc, l'algorithme en fait partie. Et donc, par exemple, lorsque je donne souvent cet exemple pour que les gens réalisent, mais par exemple, dans les années 70, lorsque les gens ont conçu les premières bagues, on s'est rendu compte que ces premières bagues, en fait, étaient mortelles pour les femmes et les enfants. Et on a compris après pourquoi, parce que les gens qui avaient dimensionné ces airbags étaient des hommes, qui n'avaient pas pensé à concevoir ces airbags en fonction de la morphologie des femmes et des enfants. Donc c'est un biais cognitif de la population qui a défini cet objet. Je dis ça parce que l'algorithme, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on écrit un algorithme, on peut introduire nos biais cognitifs. Et l'un des biais algorithmiques les plus connus, il date d'il y a quelques années seulement, c'est justement dans les premiers algorithmes de reconnaissance faciale, ces algorithmes ne reconnaissaient pas les peaux noires. Parce que les gens qui avaient développé ces algorithmes étaient principalement blancs. Et quand je dis ça, je ne blâme pas les développeurs et les scientifiques, parce que je pense que c'est tout le monde, c'est la faute de tout le monde, c'est la faute des gens qui conçoivent l'idée, qui la développent, qui la vendent, qui l'utilisent, parce qu'en fait, on est tous quelque part responsables de ces biais, et c'est à nous de comprendre comment ça fonctionne pour les empêcher de rentrer dans ces algorithmes, mais aussi de les capter avant un usage massif.
C'est-à-dire que les biais algorithmiques sont marqués par une forme de subjectivité aussi.
Subjectivité inconsciente, ouais. Voilà.
Celle de leur concepteur ou de leur développeur. Et le biais, il est souvent critiqué parce qu'il n'est pas neutre pour cette raison-là. Est-ce qu'il y a une manière de revenir sur ces processus, ou est-ce que c'est finalement plutôt important que des algorithmes peuvent, comme notre regard, comme les humains, être biaisés, être marqués par cette empreinte aussi subjective et cognitive?
Alors c'est une très bonne question, parce que ça revient à cette question qui est: est-ce qu'on doit éliminer nos biais cognitifs? Je ne pense pas. C'est ce qui fait notre richesse, c'est ce qui fait qu'on comprend aussi l'autre par nos propres biais. Maintenant, concernant les algorithmes, il faut pas avoir cette logique, il faut pas avoir ce raisonnement. C'est-à-dire que les algorithmes doivent être le plus neutre possible. Cela étant dit, si on veut essayer de comprendre comment éliminer les biais, il y a des manières. C'est-à-dire qu'il y a des manières de travailler, de les développer, de les tester en interne avant de les mettre face à l'utilisateur. Et après, il y a des manières aussi de les détecter. C'est-à-dire que plus les gens seront nombreux à comprendre comment ça fonctionne, plus ils comprendront que ce qu'ils pensent est un petit souci technique, et peut-être en fait un biais algorithmique qui a des conséquences peut-être plus graves. Donc les algorithmes doivent être absolument neutres, dans la mesure où ils vont suggérer des décisions, ils vont orienter certains actes. C'est important en fait que le seul biais qui existe soit celui en fait de l'humain qui à la fin va l'utiliser.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire par « nous sommes tous coupables de ces biais » ?
Nous sommes tous coupables parce que ce soit un algorithme explicite, à savoir en fait qu'on va décrire l'ensemble des équations, des conditions, des hypothèses explicitement de cet algorithme, on va introduire nos biais. C'est-à-dire que moi, par exemple, tout ce que j'ai failli, d'ailleurs je donne des exemples, hein, j'ai failli introduire des biais dans mes algos, et à chaque fois, en fait, je ne l'ai pas fait parce que j'ai travaillé en collaboration, par exemple, avec des gens du métier, dans le domaine médical. J'ai travaillé avec des médecins qui m'ont rattrapé au vol. Donc, je suis responsable, le médecin qui travaille avec moi est responsable de l'algorithme que je développe. Tous les gens qui vont travailler avec moi, au même titre quand je travaillais à Bloomberg à New York, les gens qui n'étaient pas des scientifiques et qui n'étaient pas des développeurs, mais qui testaient mon algorithme en interne, sont aussi responsables. Ils doivent comprendre comment ça fonctionne. Et si on parle des algorithmes en fait qui apprennent, vu qu'ils apprennent sur des données qu'on choisit, ou en tout cas des données que l'on va aussi fournir lorsqu'on utilise l'outil, on est tous responsables, parce que ces biais, en fait, c'est un peu facile en fait de blâmer les scientifiques et les développeurs, alors qu'en fait la responsabilité, elle est collective aussi.
Et la solution est collective aussi, du coup.
Oui. Individuelle et collective, absolument, absolument. Mmh. Elle est individuelle parce que chacun doit essayer de comprendre à la hauteur de ses moyens et à la responsabilité aussi d'expliquer aux autres. Ça, c'est très important dans la transmission. Et voilà, et c'est ce que je dis aussi, moi, tous les gens avec qui j'ai travaillé, ils avaient aussi la responsabilité de comprendre ce que je faisais, moi, de leur expliquer ce que je faisais. Et aussi, donc c'est un vrai travail collaboratif et pour éviter la propagation de ces biais jusqu'à l'utilisateur et de manière à qu'on puisse les fixer aussi, quoi.
C'est une question d'éthique pour vous, aujourd'hui, ça, aux religions?
Oui, c'est une question d'éthique, qui a toujours existé dans les sciences, hein, par ailleurs, hein, faut pas l'oublier. Oui, c'est une question d'éthique, c'est une question de posture, donc d'éthique. Posture morale, c'est-à-dire qu'on se doit, en fait, de faire des outils les plus inclusifs possibles, on se doit en tout cas d'avoir conscience du risque qu'on a tous d'introduire un biais. Et pour une petite référence assez rigolote, parce que comme je dis, je suis pas meilleure qu'une autre, hein, j'ai conscience de mes propres biais, j'ai conscience en fait des risques pour moi de les introduire dans mes algorithmes. Je raconte une petite histoire dans le livre en fait où lors d'une réunion au MIT, un homme rentre dans la salle de réunion alors qu'on avait des pizzas sur la table. Et mon premier réflexe a été de penser que cet homme était le livreur de pizza et à qui on avait oublié de signer la facture. Pourquoi ? Parce que c'était un homme petit, de type mexicain, avec un sweater, avec un capuche, un pull, un sweater à capuche. Et en fait, c'était un grand professeur d'informatique du MIT. Et je m'en suis beaucoup voulu de penser ça. Et je le dis avec vraiment toute honnêteté dans le livre, c'est que j'ai des biais de penser qu'un petit homme de type...
C'est-à-dire des préjugés, en fait.
Des préjugés, exactement. Théories, ouais. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas éliminer nos biais. Je pense que c'est idiot. On peut en éliminer, on peut diminuer l'impact. En tout cas, il faut en avoir conscience pour... éviter des conséquences graves dans la société, voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, certains de ces biais sont introduits volontairement par les développeurs, les concepteurs? Et est-ce qu'il y a une législation qui est en train d'être développée pour se prémunir des effets de ces biais sur l'utilisateur?
Alors, j'irais pas dire que les développeurs ou les scientifiques les introduisent volontairement. Si un biais est introduit volontairement, c'est dans le but de contrebalancer un biais négatif. Par exemple, si on se rend compte, j'ai pas d'exemple concret, mais par exemple, si on se rend compte qu'une catégorie de la population est discriminée systématiquement, on peut choisir en fait d'introduire un biais pour augmenter le poids de l'autre catégorie de population qui est justement discriminée pour essayer de rééquilibrer. Je suis pas pour ce genre de méthode. Je pense qu'il faut creuser et voir les origines de cette discrimination, mais ça existe. Cela étant dit, on réfléchit à des régulations. Il y a un congressman dont je ne me souviens plus le nom aux États-Unis qui a proposé en mai dernier un texte très intéressant, justement sur, et je trouvais que c'était assez innovant de la part d'un politique, c'était non pas de réguler les algorithmes, mais de réguler les bonnes pratiques. Réguler un algorithme, ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, on ne peut pas l'auditer. C'est-à-dire que autant un algorithme explicite, on peut peut-être regarder les équations, les conditions, les hypothèses. Par contre, ce qui est certain, c'est que les algorithmes implicites, ceux qui apprennent sur des données, qui ont des critères implicitement définis, on ne peut pas les décrire explicitement, c'est impossible, on ne peut pas les auditer. Donc en fait, réguler un algorithme n'a pas de sens. Cela étant dit, réguler les bonnes pratiques, ça a un sens, à savoir comment on le développe, à savoir comment, avec qui on discute, comment on se forme, comment on les teste, comment on les déploie dans l'entreprise, comment on les déploie à l'extérieur, toutes ces choses-là qui font qu'on peut diminuer le risque de propagation d'un biais.
Et ça, c'est une proposition que vous avez entendue au Congrès américain, c'est une proposition qui suit son cours aussi, développer des bonnes pratiques en France aussi.
Alors en France, moi j'avais écrit un article justement là-dessus, parce que je défends la régulation des pratiques et pas des algorithmes, parce qu'encore une fois, ça n'a pas de sens.
Ou en Europe, hein, pour faire
plus largement. Ou en Europe, je pense que on est plutôt à l'échelle européenne, hein, ce qui est bien, je pense. Je pense qu'on va y être, j'ai pas vraiment suivi récemment en fait les textes nouveaux, mais j'espère qu'on va tendre vers ce genre de régulation.
Invitée jusqu'à 13h30, la numéricienne Aurélie Jean, à l'occasion de la parution de son essai Voyage de l'autre côté de la machine, c'est aux éditions de l'Observatoire. France Culture, il est 13h15.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Et dans ce livre, vous faites donc un voyage du côté du virtuel, vous passez de l'autre côté de la machine, Aurélie Jean, et vous insistez sur le fait qu'aujourd'hui, il faut tenter de comprendre plutôt que d'avoir peur, plutôt que de mépriser aussi ce monde des algorithmes qui nous paraît encore assez lointain. Le comprendre, c'est peut-être un début vers une liberté nouvelle aussi pour les utilisateurs. Comment y être libre d'ailleurs dans ce monde, alors qu'on n'a pas la maîtrise aujourd'hui de tous ces processus mathématiques? Les plateformes, elles ont cette maîtrise, nous non. C'est elles du coup qui ont le pouvoir de modéliser le monde pour l'instant. Hein.
Je comprends la crainte et elle est bien réelle. Cela étant dit, je pense qu'il n'y a pas de fatalité et que je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un niveau de compréhension qui est celui des gens qui développent les plateformes pour pouvoir mieux se défendre face à ces plateformes. Vous seriez étonné, je pense qu'il suffit de simplement de comprendre qu'est-ce qu'un algorithme, qu'est-ce qu'une donnée, à quoi sert la donnée pour cet algorithme, que ce soit autant pour la calibration que pour l'apprentissage, et de comprendre du coup quelle est la posture qu'on doit avoir par rapport à ces plateformes, quelles questions on doit poser, comment on doit les poser, et du coup peut-être changer nos comportements par rapport à ces plateformes pour pouvoir mieux se défendre. Donc je pense encore une fois, oui, les développeurs des plateformes ont une connaissance beaucoup plus pointue et experte sur le sujet, cela étant dit, on n'a pas besoin d'avoir une expertise dans le domaine pour pouvoir se défendre.
Alors il va dans votre sens, je vous propose d'écouter les recommandations de l'informaticien chercheur à l'ENS et à l'INRI, Serge Habitboul, sur le sujet.
Quand je commence à chercher un produit à acheter, il faut que je comprenne que ce qu'on me donne n'est pas forcément ce que j'ai envie d'acheter moi, mais ce que la boîte qui me file ce logiciel a décidé. Et donc il faut que j'arrive à maîtriser un peu ces outils. Alors ça demande un peu de faire un peu en arrière, d'aller plus lentement. Il y a quelque chose dans toutes ces machines qui est fantastique, c'est l'instantanéité, la rapidité. Tout ça va vachement vite, tout ça va très vite, on nous laisse pas le temps de réfléchir. Ben, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les questions. Alors, on a toutes ces applications, la plupart du temps, est-ce que vous voulez ouvrir vos données, vous n'avez pas de temps, vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez besoin de l'appli, vous dites oui. À un moment donné, il faut faire un pas en arrière, dire bon, ben, je vais prendre un peu le temps, je vais essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe, je vais essayer de comprendre suffisamment ce que ça veut dire cloud, ce que ça veut dire la cryptographie, comprendre un minimum ces choses-là pour être capable de décider que non, finalement, j'aime bien cette appli, mais il y a un truc qui me plaît pas. Il y a cette façon, ce choix qui est fait, qui m'est imposé. Je vais prendre le temps de le refuser. Donc, c'est juste une question de peut-être un peu de slow life qui me paraît importante dans ce contexte.
Voilà, ralentir, nous dit Serge Habitboul dans cet extrait. Comment utiliser des applications en conscience? Comment savoir comment nos données sont collectées? Et puis à quoi elles vont servir? Ce qui est parfois décourageant, Aurélie Jean, c'est qu'on a le sentiment que finalement les plateformes, les développeurs de ces applications ont toujours un train d'avance sur nous.
Je pense que ça a toujours été le cas dans n'importe quelle évolution technologique. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas expert dans le domaine, les gens qui le font sont toujours un train d'avance. Donc, je pense qu'il ne faut pas grossir les traits, il ne faut pas trop zoomer. Sinon, on risque en fait de déformer la réalité. Et donc, partant de ce principe, encore une fois, je rejoins Serge, qui en plus est complètement aligné, puisqu'en fait, il a écrit beaucoup de livres pour expliquer comment les choses fonctionnent de manière simple. Je pense encore une fois vraiment, il faut pas comparer de la sorte en termes de niveau d'expertise, mais bien plus en termes de connaissances, un minimum sur les mécanismes et sur comment fonctionne la machine.
Alors par exemple, vos données, est-ce que vous les mettez sur le cloud ou...
Alors moi, je les mets sur le cloud, ouais. Après, il y a plein de manières de les mettre sur le cloud. Il y a des moyens payants, des moyens gratuits. Après, il y a des manières d'utiliser les outils. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, sur mon téléphone portable, mon moteur de recherche est toujours en mode incognito. Alors, il y a des inconvénients, c'est-à-dire que je dois tout taper. Il n'y a pas de reconnaissance sémantique. Je dois tout écrire. Il n'y a pas d'historique. Il ne retient pas les recherches que j'ai faites. Le point positif, c'est qu'il y a pas on trace pas mes données. Donc voilà, il y a des petits détails comme ça à faire. Par exemple, je désactive la géolocalisation sur les conseils de ma grand-mère qui a bien compris comment ça fonctionnait et qui me demande tout le temps « est-ce que tu as activé ta géolocalisation ?» Donc voilà, si ma grand-mère de 84 ans, bientôt 85, comprend le principe de géolocalisation et les risques que ça peut engendrer, sur sa vie privée, je pense que tout le monde peut comprendre.
Voilà, quelques points de référence, de départ, peut-être même le béaba pour se servir de ces objets-là. Est-ce que les acteurs pour vous de la tech, les développeurs en intelligence artificielle, ne sont pas quand même régulièrement dans une forme d'abus de pouvoir pour vous? Est-ce que vous les croyez toujours bien intentionnés? Ou est-ce qu'ils ont aussi pour mission, en développant ces applications, d'aller collecter un maximum de nos données et donc le système est toujours un peu perverti?
Je pense qu'il y a les deux cas. C'est-à-dire que dire que tous les développeurs et tous les scientifiques dans ce domaine sont comme ça, c'est faux. Absolument faux. Moi, j'en connais beaucoup plus qui sont éthiques, qui veulent faire les choses bien, qui veulent au contraire transmettre l'information, les connaissances auprès du grand public. Donc non, maintenant, il suffit de quelques personnes qui veulent justement abuser de ce pouvoir pour tomber en fait dans des dérives autant sur la data, comment l'utiliser, que sur le traitement de l'information et l'usage qu'on peut en faire, même à des fins politiques. Donc, il y en a sûrement, oui. Et c'est ça qu'il faut regarder de près, et c'est justement à travers des régulations et aussi à travers une meilleure compréhension de la part des gens qui pourront mieux se défendre. Vous savez, je dis souvent, en fait, nous sommes aujourd'hui on est quand même dans un système assez démocratique, puisqu'en fait, nous sommes le talon d'Achille de ces plateformes. Faut pas l'oublier, ça. C'est-à-dire que nous tous, si nous décidons d'arrêter d'utiliser une plateforme, elle ne survivra pas. Et il faut le dire. Nous sommes le talon d'Achille de ces structures. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Et du coup, pouvoir changer ses habitudes si on pense qu'il y a une injustice ou une dérive de la part des gens qui détiennent ces plateformes.
Ce sont deux de vos confrères, David Booney et Winston Maxwell, récemment dans une tribune au Monde intitulée « Intégrer l'éthique dans les algorithmes soulève des défis titanesques », qui disaient justement que l'éthique aujourd'hui est politique, que la création d'un système équitable va en permanence nécessiter des compromis, des arbitrages, la mise en balance d'intérêts contradictoires, et notamment les intérêts individuels et les intérêts collectifs. Tout est politique aussi pour vous ?
Il y a deux choses. Il y a d'une part le défi avec l'intelligence artificielle, c'est que cette éthique doit être universelle, parce que les outils sont utilisés partout. Donc il y a en plus un pas en plus. Je pense que cette question-là de l'éthique et de la politique, de l'influence politique sur l'éthique a toujours existé. C'est pas nouveau. À une époque, c'était même l'influence de l'Église. Enfin, je veux dire, c'est pas très nouveau, ça. Pour moi, c'est des problèmes anciens. Donc je pense qu'il faut s'en inquiéter, il faut faire attention, mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut quand même développer des pratiques éthiques, il faut quand même se poser des questions et laisser une certaine flexibilité à la démarche et aux textes, aux lois, aux règles qui vont sortir de ces réflexions, de façon à pouvoir les faire évoluer et ne pas rentrer dans un système trop étroit qui nous empêcherait de faire les choses mieux.
Parce que l'éthique, c'est de la nuance souvent. Est-ce qu'il y a de la place dans le processus mathématique, dans la formule algorithmique de remettre de l'éthique ?
C'est très compliqué. Je vais vous dire, moi j'ai eu mon premier cours d'éthique à 27 ans. Je pense que c'est très tard. Et je l'ai eu parce que j'étais dans un laboratoire médical et j'ai appris énormément avec ce cours d'éthique. J'ai surtout appris en fait qu'il n'y avait pas de solution idéale, mais qu'il y avait des solutions intermédiaires, il y avait des solutions itératives, et que c'était par la méthode des petits pas qu'on arrivait justement à faire des choses mieux, et qu'en plus d'avoir des principes éthiques dans le développement, dans la réflexion, dans le travail au quotidien, c'est aussi d'avoir des pratiques éthiques a posteriori sur les outils, sur les choses qu'on développe, les actes qu'on a faits.
C'est un voyage proche du vôtre qu'il a réalisé, le philosophe Gaspard Koenig, qui est par ailleurs votre éditeur,
oui,
et qui, dans son dernier livre, s'interroge, lui, sur l'avenir de l'individu et de ses libertés à l'ère de l'intelligence artificielle. Il plaidait à ce micro, justement, pour une réhabilitation du libre arbitre.
Au fond, nous croyons choisir, mais nous n'exprimons quand nous exprimons un choix, ce choix a déjà été fait. Donc, le vieux débat qui a occupé tout le Moyen-Âge sur le libre-arbitre contre le déterminisme, ressurgit complètement aujourd'hui, avec en plus des preuves scientifiques, si je puis dire, de notre détermination. Et donc il y a tout un travail aussi intellectuel et quasiment métaphysique à faire pour réhabiliter non pas le libre-arbitre en tant que interruption du flux de la matière et des lois physiques, mais plutôt le libre-arbitre en tant que capacité de délibération intérieure. Au fond, peu importe qu'on soit déterminé du moment qu'on délibère. Et c'est cette absence de délibération qui crée l'irresponsabilité. Vous voyez par exemple que il y a des études qui ont montré que chez les gens qui utilisent, notamment les chauffeurs VTC qui utilisent le GPS toute la journée, 8 heures par jour, on note une atrophie de certaines zones cérébrales. C'est-à-dire qu'à force de ne plus faire de petits choix, est-ce que je tourne là, est-ce qu'il risque d'y avoir un embouteillage ou pas, et de simplement suivre la bille bleue, il y a des zones du cerveau qui n'arrivent plus à fonctionner.
Voilà, ça peut être très déshumanisant, pour reprendre cet exemple aussi de Gaspard Koenig, comment retrouver notre libre arbitre. Vous insistez aussi sur l'importance d'avoir le choix, petit choix ou grand choix. Mais quel choix est-ce qu'on nous laisse vraiment aujourd'hui ? Quel choix on a ?
On a le choix de ne pas utiliser les outils qu'on ne veut pas utiliser. Et c'est encore faut-il comprendre comment ces outils fonctionnent. Et c'est ce que je décris pour rejoindre exactement ce que dit Gaspard. Il a entièrement raison. C'est-à-dire que je ne veux pas d'un monde où seuls les gens qui comprennent auront le choix. C'est dangereux, en fait. Donc, et c'est vrai qu'il parle de déterminisme, Gaspard. Et j'aime beaucoup ce mot parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on a des algorithmes, ces algorithmes font des suggestions de décision. Et la manière dont ces algorithmes fonctionnent, on fait ce qu'on appelle de la catégorisation. C'est-à-dire qu'on va, pour modéliser la réalité dans le monde virtuel, on va catégoriser. On va simplifier ce monde réel sous forme de catégories, à l'image des catégories d'Aristote, pour mieux comprendre les êtres et les choses. En fait, on va créer des catégories, donc on va mettre, entre guillemets, les gens dans des boîtes. C'est un peu grossier, mais voilà, pour essayer d'expliquer. Cela étant dit, ces catégories, elles doivent évoluer dans le temps, elles doivent être malléables, et surtout, elles ne doivent pas être figées, même à un instant donné. C'est-à-dire qu'on ne doit pas la prendre comme une vérité absolue. Donc, en effet, on a tendance, en fait, par ces méthodes, si on les prend aveuglément et si on les utilise sans esprit critique, à avoir, en fait, un système déterministe, en fait, figé. Cela étant dit, comme je dis souvent, moi, par exemple, je remets très souvent en question la suggestion de mon GPS. Et pourtant, il y a plein de gens qui diraient, non, le GPS a forcément raison. Non, il n'a pas forcément raison. Et même si une suggestion est faite, vous avez le droit de ne pas la vouloir parce que vous voulez apprendre par vous-même. Lorsque Gaspard parle justement de ces, je connais pas cette étude, mais de ces zones du cerveau qui ont été atrophiées, en fait. Il y a quelque chose de très intéressant, et je fais référence dans le livre à un dessin animé que j'adore qui s'appelle Wall-E, où en fait, il y a eu la mort écologique donc de la planète, et donc tous les humains ont été emmenés dans une station spatiale pour vivre jusqu'au moment où la Terre pourra revenir sur Terre pour vivre. Et donc dans cette station spatiale, les humains, on leur dit, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à réfléchir, vous n'avez rien à décider, on vous nourrit, on vous habille, on vous transporte dans des petites voitures. Et en fait, on se rend compte qu'au bout de quelques années, ces humains qui ont 30, 40 ans, en fait, fonctionnent comme des enfants de 4 ans, parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas fait d'erreur, ils ne savent pas ce que c'est l'erreur, ils ne savent pas ce que c'est de décider. Donc, je pense que le risque, en fait, de la perte de l'individu, pour reprendre le titre du livre de Gaspard Koenig, existe, mais c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on peut reprendre la main, et pour ça, il faut comprendre, transmettre, expliquer, avec bien évidemment aussi l'aide de régulation et voilà.
On se souvient de Emmanuel Macron pendant sa campagne vantant les mérites de la French Tech, appelant à la développer. On se souvient aussi de François Hollande, alors président, plaidant pour l'introduction de l'apprentissage du code informatique à l'école, du codage, pour développer aussi toute une génération de jeunes Français ingénieurs à l'avenir, et notamment ingénieurs informatiques. Mais vous avez quand même l'air de dire, et on terminera là-dessus, sur le fait que il faut justement commencer par éduquer et former les gens, mais à commencer par les sphères politiques qui sont parfois assez loin d'être vraiment conscientes des enjeux aujourd'hui.
Ouais, absolument, je confirme encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que c'est très bien tout ce qu'on fait, en fait, dans l'éducation. Même si je pense qu'il ne faut pas voir ça comme des formations professionnalisantes, pas du tout, c'est des formations de l'esprit, l'algorithmique, et pour avoir développé l'esprit critique par rapport à ces outils. Maintenant, pour les hommes politiques, oui, je confirme. C'est-à-dire, je pense que les leaders, les décideurs économiques et politiques de notre pays doivent être, en fait, des exemples et doivent montrer qu'ils comprennent pour prendre des bonnes décisions, autant à l'échelle de leur entreprise qu'à l'échelle de l'État.
Et qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas encore aujourd'hui ?
Je pense qu'ils ne comprennent pas forcément ce que ne comprend pas Monsieur Tout-le-Monde, hein, c'est-à-dire comment l'outil fonctionne, qu'est-ce qu'une donnée, qu'est-ce que ça veut dire effacer une donnée. Vous savez, par exemple, le fait que les textes de loi ne soient pas écrits plus en collaboration avec les scientifiques de l'intelligence artificielle, pour moi, est un problème. Parce qu'on va créer dans les textes, et ça existe déjà, on va créer des vides technologiques à l'image des vides juridiques, à savoir en fait des choses qui ne sont pas, qui sont trop ambiguës et qui vont permettre toute l'interprétation du monde pour contourner la loi, en étant dans la plus grande légalité. Donc, en fait, je pense que si les décideurs en fait politiques comprenaient vraiment, ils collaboreraient davantage avec des scientifiques et des ingénieurs pour pouvoir justement, d'une part, développer la vision technologique du pays, mais aussi de faire des textes de loi cohérents.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Aurélie Jean d'avoir été avec nous. De l'autre côté de la machine voyage une scientifique, une, au pays des algorithmes. Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas encore si nombreuses, en tout cas, à prendre la parole. Votre ouvrage vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Auriane Delacroix avec Sophie-Catherine Guellet pour La Grande Table culture. Merci à Sophie Marty et à François Bréus pour leur aide précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Alexandra Candy-Languet, avec à la technique Florent Bujon, et à la vidéo Morgane Danan. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture.